La grande édition avec Clémence Gaudon-Negrini. Bonjour Clémence.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Grand angle sur la carrière de Brando.
Elle pourrait reprendre du service après la signature d'un bail entre la commune et le groupe Brandy, dit mise en face. Un collectif de riverains s'y oppose. Il craint une insécurité avec le passage de poids lourds sur une route déjà fragile. Une enquête publique est ouverte jusqu'au 7 mai. À Etchik, à Soirée, l'impasse pour la mairie et la Comcom face à une crèche fermée depuis près d'un an pour insalubrité. Le préjudice pourrait coûter près d'1 million d'euros. Deux procédures sont en cours. La tour génoise de Tomino dans le Cap Corse pourrait être transformée en meublé de tourisme. La mairie s'y oppose, mais elle a peu de moyens pour lutter. On en parle dans cette grande édition avec le maire invité ce matin de Patrick Vinciguer. Et puis dans cette grande édition également en direction Calvi au Ladies Open. Journée compliquée, ça souffle. Nous serons en direct avec Jean-Philippe Thibaudeau. Un collectif contre la réouverture de la carrière de Brando. Certains riverains craignent de nombreuses nuisances, réclament l'arrêt du projet. Ils rappellent que la route est fragile et que le passage de trop nombreux poids lourds pourrait être dangereux, sans compter l'impact environnemental. Autant d'arguments défendus notamment par Marie-Noëlle Nicolas, du collectif contre la carrière de Brando.
Et il y aura 9090 rotations de camions pour l'exploiter, donc la pierre. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a également le fait que la carrière va accueillir 30 000 tonnes par an de déchets du bâtiment. Donc la carrière va devenir également une déchetterie. Hein. On dénonce donc les rotations de camions, le bruit, les nuisances, la pollution, les poussières, la dangerosité, le risque sanitaire qui est indéniable. Et la perte de qualité de vie que nous avons. Et la route est déjà très très empruntée, très impactée. Il y a des endroits où la route s'effondre, il y a des maisons lézardées, vous avez des risques de d'éboulement sur tout le secteur qui va de Bastia jusqu'à la fin de Brando. Donc on se demande qu'est-ce qu'on attend pour réagir à ce projet.
Autant d'inquiétudes dont a bien connaissance le repreneur, le groupe Brandy, dit spécialisé dans le BTP. Mais son gérant, Hugo Brandy, dit veut rassurer, tout est très encadré.
On commencerait à rentrer en activité à partir soit de fin juin, soit début septembre, on l'espère. Après, on a une trêve estivale, c'est-à-dire qu'on s'est engagé auprès de la mairie à ne pas être en ordre de marche pendant l'été. Les craintes, en tout cas, des riverains, c'est le bruit, la poussière. Le bruit, on est aussi encadré, c'est-à-dire qu'on fait des études avant. On mesure le bruit résiduel, c'est-à-dire le bruit qui est déjà présent. Et on n'a pas le droit de dépasser de plus de 5 décibels ce bruit résiduel. Toutes les consommations d'eau qu'on fait sont suivies, sont contrôlées en termes de qualité, en termes de quantité. Donc, quelque part, on est contrôlé, on est suivi, on peut pas travailler comme avant c'était le cas où on avait de la poussière importante. Aujourd'hui les canons ils sont bâchés. Tout est suivi et c'est vraiment une activité encadrée.
Des arguments soutenus aussi par la commune, propriétaire des terrains qui a signé un bail avec le repreneur. Le maire, Patrick Sanguinetti, assure que toutes les étapes légales sont bien suivies.
C'est des terrains communaux, hein. Donc il y a un bail qu'on appelle un contrat de fortage, qu'on renouvelle avec des conditions, bien sûr, suspensives. Bien sûr, il y a l'autorisation de l'État, puisque c'est l'État, l'Adréal, qui donne les autorisations. Donc il y a un dossier assez conséquent, avec des études possibles et imaginables. Études de saison, études d'impact environnemental, sur la faune, sur la flore, sur les poussières, sur le bruit, sur la circulation. Voilà, donc actuellement, c'est en enquête publique. Et le commissaire enquêteur fait ensuite son rapport. Ben moi, s'il y a des gens qui font des remarques, des associations. Et ensuite, le projet est examiné par Adréal qui donne un avis et c'est le préfet qui signe les autorisations légales.
Et si vous voulez donner votre avis, l'enquête publique est ouverte jusqu'au 7 mai. À Etchik, à Soirée, l'insalubrité de la crèche pourrait provoquer un préjudice de plus d'un million d'euros. Depuis près d'un an, le site de 200 mètres carrés est fermé. Il avait pourtant été inauguré 4 ans plus tôt, après 800 000 euros de travaux partagés entre l'État, la CDC et la CAF. Et aujourd'hui, la commune se trouve dans une véritable impasse. Visite des locaux avec Pierre Paul, le maire et vice-président de la Comcom.
Il n'y a plus de peinture sur les murs, les champignons ont attaqué, les sols ont gonflé, les piliers, regardez, ils sont attaqués aussi. C'est vraiment, je dirais, une situation catastrophique pour nous. C'est vraiment triste de voir ce bâtiment dans cet état. L'inauguration, on a commencé à avoir des cloques sur le sol. Alors on a pensé, les architectes ont pensé que c'était l'étanchéité des ouvrants qui était en cause. On s'est rendu compte très vite que ce n'était pas le cas. Et après, malheureusement, petit à petit, les murs ont commencé à être attaqués, les sols ont continué à gonfler. Toutes les pièces sont contaminées.
Résultat, cette fermeture, donc il y a presque un an. Pourtant, tout a été essayé avant. C'est ce qu'assure Dominique Livrel, le président de la Comcom.
J'ai pris la décision de fermer cette crèche en 2023 parce que ça faisait presque 3 ans que nous avions un suivi régulier. Nous sommes rendus compte de tout ce qui était moisissure, qu'il y avait quelques problèmes dès la fin 2019 sur cette crèche. Il y a eu toujours beaucoup de transparence envers les parents. Nous avons consulté. L'ARS a suivi quotidiennement des analyses toutes les semaines. Les parents étaient informés régulièrement. Nous avons même demandé à chaque parent si les enfants avaient des problèmes de santé en ce qui concerne les voies respiratoires. Ça a été un marathon. Et même au niveau de la justice, au mois de septembre 2023, nous avons délocalisé la crèche sur la commune de Basse-Hélicatte pour que la solidarité entre communes a joué. Et nous avons investi avec la communauté des communes plus de 100 000 euros pour que l'ensemble des enfants soient recasés en partie sur cette crèche, les enfants et le personnel, et l'autre partie sur une crèche qui venait d'ouvrir sur Okana. Je pense qu'on s'achemine vers la destruction de cette crèche.
Pour un préjudice, on l'a dit, estimé à plus d'un million d'euros, 2 procédures sont en cours, dont une civile avec une audience prévue dans 2 mois devant le tribunal d'Ajaccio. Le budget de la communauté de communes Nebbio-Concadoro est désormais dans les mains de l'État. La Chambre régionale des comptes a 1 mois à compter de sa saisine pour formuler des propositions pour ce budget qui sera ensuite réglé par arrêté préfectoral. Et si on en arrive là, Alexandre Sanguinetti, c'est parce que le budget a été rejeté la semaine dernière par le Conseil communautaire.
Certains mariages sont heureux, d'autres pas. Nebbio-Concadoro fait partie de cela. Les deux territoires unis en 2017 à la faveur de la loi NOTRe avec une cohérence géographique évidente sont pourtant d'éternels rivaux. Le travail communautaire n'en a pas été facilité. À en croire le maire Corinne Front de Patrimoine, Jean-Baptiste Arène, à ses efforts pour concilier les oppositions politiques et territoriales avaient fini ces derniers mois par porter leurs fruits, permettant des votes consensuels, notamment sur la question des déchets, par exemple, la mise en œuvre d'une redevance spéciale pour les professionnels.
Et pourtant, Alexandre, tout a éclaté vendredi dernier.
Un budget préparé en solo par la présidence, sans concertation avec l'opposition ni même la majorité. Une partie de celle-ci a donc boycotté la séance en signe de protestation, l'opposition s'engouffrant dans la brèche pour rejeter le budget, avec les conséquences que l'on connaît. Si le siège de la Comcom se trouve à Olette, à son président Claudie Holmette et maire de Saint-Florent, tout ne se résume pas là. Évidemment, les affaires humaines et politiques sont toujours plus subtiles. Il faut quand même rappeler que le divorce, dans le cas de Nebbio-Concadoro, n'est pas une possibilité.
Les résultats, c'est donc à la Chambre régionale des comptes maintenant de proposer un budget. Elle doit d'abord être saisie par la préfecture. Explication de ce process avec Johan Touban, sous-préfet de Calvi.
La loi prévoit en effet que les collectivités ont jusqu'au 15 avril pour approuver leur budget. Si elles ne font pas jusqu'à cette date-là, le préfet est tenu de par la loi de saisir la Chambre régionale des comptes. Et à ce moment-là, celle-ci a 1 mois pour proposer un budget et que le représentant de l'État, c'est-à-dire le préfet, pourra arrêter et que la collectivité pourra ensuite exécuter. Pour des raisons liées à la structure budgétaire, le préfet devait faire des contre-propositions, il faudra le motiver. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous sommes au moment de la saisine de la Chambre régionale des comptes parce que la loi prévoit qu'en cas de non-adoption avant le délai du 15 avril, le préfet est tenu de transmettre le dossier à la Chambre régionale des comptes.
À l'international, Israël promet une riposte à l'Iran et ce malgré les appels du monde entier, y compris des États-Unis, à éviter une escalade au Moyen-Orient. Le président iranien, lui, a de nouveau prévenu que la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait, je cite, une réponse sévère, étendue et douloureuse de son pays. Une situation suivie de très près par les Juifs d'Iran. Ces Juifs nés en Iran mais qui se sont installés en Israël il y a quelques années, surtout après la révolution islamique. On estime qu'ils sont entre 20 000 et 30 000 actuellement en Israël. L'un d'entre eux s'est confié au micro des envoyés spéciaux de la Maison de la Radio, Ajera Mohamed et Alexandra Varty.
De son enfance passée à Nahavand, cette ville au nord-ouest de l'Iran, Eli Cohen en garde quelques souvenirs précieusement conservés, comme ces photos jaunies par le temps.
C'est mon père et ma mère. Et ça, c'est le père de ma mère. Il était docteur de toute la commune. Je me rappelle de Téhéran aussi. J'y allais avec mon père. Je me souviens des voisins. C'était des gens bien.
Il a quitté l'Iran à l'âge de 6 ans avec ses parents qui rêvaient de s'installer à Jérusalem, terre sainte pour ses juifs. Un départ à l'époque choisi et non pas contraint. C'était avant la révolution islamique.
Nous ne nous sommes pas enfuis. On est parti d'Iran à l'époque du Shah. Les relations étaient bonnes et il était bon avec les juifs, les musulmans, les chrétiens. Et il entretenait de très bonnes relations aussi avec Israël.
Mais les choses ont bien changé depuis. Iran et Israël devenus des ennemis irréconciliables. L'attaque lancée par les Iraniens le week-end dernier en est une preuve supplémentaire, une blessure de plus pour Eli Cohen.
C'était vraiment très triste. J'avais les larmes aux yeux et maintenant ça m'émeut d'en parler. Ça m'embête vraiment parce qu'on aime les Iraniens. On n'a pas de problème avec eux. Je suis un patriote israélien, juif. Et si je vois qu'Israël riposte, attaque et que des Iraniens vont mourir, ce sera vraiment très triste pour moi.
Aujourd'hui, à 79 ans, il a toujours le même rêve.
Je veux aller en Iran avant de quitter ce monde. Si aujourd'hui il y a la paix entre Israël et l'Iran, j'achète un billet et je pars tout de suite.
Eli Cohen nous confie prier chaque jour pour cela, pour cette paix entre ce pays qu'il a vu naître et celui qui le verra partir.
Et à Gaza, le ministère de la Santé du Hamas annonce à l'instant un nouveau bilan, 33 843 morts. À Mayotte, une nouvelle opération contre l'insécurité et l'immigration irrégulière. Quelques 1700 gendarmes, policiers et militaires doivent être engagés pour cette opération, baptisée Mayotte Place Nette, qui doit durer 11 semaines, annonce le ministère des Outre-mer. Allez, prenons la direction de Calvi. C'est aujourd'hui que les choses sérieuses commencent au Ladies Open avec le tableau final. En direct sur place, Jean-Philippe Thibaudeau, bonjour.
Bonjour Clémence.
C'est compliqué aujourd'hui hein, avec les conditions météo.
Ouais, on est passé un petit peu en mode Garou Céline Dion, hein, sous le vent du côté de Calvi, mais sous le soleil également, ouais, conditions difficiles pour être un petit peu plus sérieux. C'est vrai que tous les bénévoles, les 80 bénévoles de ce Ladies Open de Calvi sont sur le pont depuis ce matin pour permettre à l'ensemble des joueuses qui participent à ce tableau final de jouer dans les meilleures conditions. On passe le balai, on passe l'aspirateur pour enlever les petites épines des pins de cette pinède du TC Calvi. Bref, beaucoup, beaucoup de vie, mais surtout un tableau exceptionnel qui nous attend tout au long de la journée.
Oui, on l'a dit, hein, du très beau monde.
Ouais, du très très beau monde, encore 15 nationalités représentées dans ce tournoi et l'entrée en lice aujourd'hui de la tête de série numéro 1, l'Ukrainienne Daria Snigour, grande favorite de la compétition. Également l'entrée en lice aujourd'hui, mais dans la compétition de double de la jeune Corse, Alice Batteste, l'ex-pensionnaire du TC Mezzavia qui fera ses grands débuts en double, puis demain en milieu d'après-midi dans le tournoi du simple. Et puis celle que tout le monde attend, c'est Aravan Reza, l'ancienne numéro 15 mondiale qui fait son grand retour à la compétition après 3 ans d'absence ici à Calvi sur ce Ladies Open Calvi Haut-de-Die. Elle est sortie du tableau des qualifications hier et elle jouera aujourd'hui son premier tour dans ce tableau final.
Et vous l'avez rencontrée avant cette reprise, Jean-Philippe Thibaudeau. Merci d'avoir été en direct dans cette grande édition. Aravan Redzai, que vous avez donc rencontrée, elle n'avait plus joué de match professionnel depuis 2021. Et elle choisit Calvi pour relancer sa carrière. Reprise très très préparée, c'est ce qu'elle vous a expliqué.
C'est vrai que j'ai tenté plusieurs reprises. Voilà, j'ai vu que le corps ne suivait pas par moment, avec des grosses blessures, hernie discale, rupture du tendon d'Achille qui m'a valu vraiment d'être immobilisée très longtemps. Donc les reprises ont été un échec. Donc la première chose que j'ai faite, c'est vraiment de me reconstruire, d'avoir un meilleur physique et de pouvoir être vraiment plus athlétique que ce que je ne pensais. Souvent, on a une image du sport, on a été 15e, on se dit bon bah le retour va être plus simple. Bah non, en fait, ça a été plus long et plus dur que prévu. Et voilà, c'est vraiment un cheminement de recommencer à zéro et d'aller chercher ses limites à chaque fois. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui domine surtout. Mais avant tout, c'est la santé et pour moi, elle est primordiale, quoi. C'est vraiment une passion d'être sur le terrain et de pouvoir être dans la concurrence avec ces jeunes-là. Ben pour moi, c'est déjà une fierté.
Tableau final aujourd'hui et demain et on continue de le suivre sur RCFM grâce à Jean-Philippe Thibaudeau sur place, qu'on retrouvera aussi demain. Il animera le mag de la rédaction de midi et demi à 1h. tour génoise qui appartient au privé. C'est rare, une tour destinée à se transformer en meublé touristique, ça l'est encore plus. Et pourtant, c'est ce qui risque d'arriver à celle qui domine depuis plus de 300 ans, le village de Thomines, dans le Cap Corse. Le conseil municipal de la commune unanime s'y oppose au nom de la défense du patrimoine historique. Mais les moyens d'action sont limités. Son maire, François Orland, y était l'invité de Patrick Vinciguer ce matin.
François Orland, dit bonjour.
Bonjour.
Pour ceux, il y en a qui ne connaissent pas Thomines, je précise que c'est un village de quelques 200 âmes à la pointe du Cap Corse, à proximité de Maginadio. Son conseil municipal unanime s'oppose donc à la transformation d'une tour génoise qui domine la commune en un meublé touristique au nom de la défense du patrimoine. On peut comprendre, mais comment cet édifice qui date du XVIe siècle s'est-il retrouvé dans le privé ?
Alors, c'est un édifice qui a une histoire assez particulière puisqu'il a été en fait attribué à une famille à l'époque de Pascal Paoli lorsque ce dernier parcourait les villages pour trouver de quoi battre monnaie. Et en récompense de l'indication où se trouvaient deux objets précieux de la commune, à savoir un tabernacle en argent et un encensoir en or, donc Pascal Paoli a attribué à cette famille la tour, ce qui rend le bâtiment avec la particularité d'être une des rares tours génoises de Corse privatisées.
Donc ça remonte à loin, mais pourquoi à un moment donné le village ne l'a pas racheté ?
Alors, il faut savoir que cette tour est restée dans son jus, c'est-à-dire que depuis l'époque de sa construction et de sa destination initiale, c'est-à-dire une destination militaire, elle n'a jamais évolué. La commune n'a jamais manifesté l'intention de l'acquérir parce qu'elle était là, plantée, je dirais, au milieu du village, sans que la famille propriétaire n'ait eu à aucun moment l'intention de procéder à sa vente. Et il y a quelques années, 2 ou 3 ans, nous étions rapprochés des héritiers pour savoir s'ils étaient intéressés par une vente. On n'a pas eu de réponse. À notre surprise, une mise en vente a été réalisée sur un prix qui était affiché et qui nous paraissait assez disproportionné. 215 000 euros, m'a-t-on dit. Mais bon, ça, j'ai envie de dire que c'est la loi du marché. Il y a des propriétaires qui décident de vendre, des acquéreurs qui sont intéressés. Ce qui nous choque, c'est qu'il ne s'agit pas d'une habitation particulière, mais il s'agit d'un bâtiment militaire qui est resté en l'état. Et nous trouvons qu'un bâtiment de ce type qui a histoire mérite une autre destination que celle d'abriter les gens qui viennent passer quelques semaines de vacances dans notre belle région.
Quels sont vos moyens d'action aujourd'hui, sachant que les finances de la commune sont limitées ?
Alors, les priorités de la commune sont bien évidemment ailleurs. Les moyens d'action, ben justement, aujourd'hui, nous sommes en train d'investiguer avec les différents services de l'État et de la collectivité pour savoir comment véritablement s'opposer à cette transaction et en même temps pouvoir faire tomber ce bien dans le domaine public. La commune n'ayant plus de PLU, le droit de préemption a disparu et quand bien même nous aurions encore le droit de préemption, au prix proposé, il nous était difficile de nous porter acquéreur puisqu'après, pour le transformer, ce que nous souhaitions faire en lieu de mémoire, il y a des travaux assez importants à réaliser en termes de sécurité. Donc c'est une opération qui n'est pas du tout dans nos moyens aujourd'hui. La seule possibilité, c'est peut-être que la collectivité nous soutienne dans cette opération et se porte acquéreur. La collectivité s'est portée acquéreur pour des objets d'art religieux. Je pense que un effort peut être consenti pour un édifice de ce type.
Au-delà de ce cas particulier, François Orland dit en Corse, comment réguler la croissance exponentielle de meublés de tourisme qui parfois transforment les villages en hôtels et font flamber les prix du foncier au détriment des locaux. Ne serait-ce pas le rôle du PADUC voté en 2014 ?
Alors là, nous sommes dans un domaine très particulier puisque c'est un bâtiment, j'allais dire historique, en tout cas chargé d'histoire. Pour ce qui est des transactions immobilières classiques, en effet, le PADUC pourrait être un moyen de régulation, mais je crois qu'il y a aussi peut-être la volonté des communes et des moyens qui doivent être mis en œuvre pour permettre notamment à nos jeunes qui souhaitent s'installer notamment dans le rural de trouver des voies et moyens de les aider à acquérir. Il y a des communes, et j'espère que nous en ferons partie prochainement, qui ont fait des efforts dans le domaine de l'acquisition immobilière pour pouvoir mettre à disposition soit des logements, soit des terrains. Il faut une volonté politique de le faire et il faut également être soutenu. Donc je pense que techniquement, il y a des moyens qui existent. Je crois qu'entre les extrêmes que constitue aujourd'hui un marché débridé et l'impossibilité pour des jeunes dans certaines régions ou micro-régions de devenir propriétaires, il y a en effet de la matière et des moyens à trouver, des moyens juridiques, des moyens financiers à mettre en œuvre. Ça peut être en effet le PADUC, mais ça peut être aussi des règles que le processus d'autonomie pourrait révéler. Il y a un gros travail à fournir, il y a un besoin à remplir. Il faut, je crois, chercher dans toutes les directions.
Et on l'a bien compris, il faut une volonté politique. Merci François Orland d'avoir été notre invité.
Merci à vous, bonne journée.
Un appel au rassemblement devant la tour a été lancé samedi à 10h30, lancé sur les réseaux sociaux. Trois jours après l'incendie qui a ravagé la Paillotte, l'Alboré, un véritable élan de solidarité. Tout était prêt dans l'établissement qui devait rouvrir ce week-end. Les deux propriétaires ont tout perdu. Ils n'étaient pas assurés pour ce genre de sinistre. Alors sur les conseils de quelques amis, ils ont ouvert une cagnotte en ligne. Et en dehors des possibles dons financiers, Gaëtan Savignoni, l'un des responsables, reçoit de nombreuses propositions d'aide.
Alors oui, on a reçu de multiples appels et messages. J'ai plein d'entrepreneurs qui m'ont proposé leur aide le jour où il faudra débarrasser les restes de la paillotte. Donc déjà, ça fait chaud au cœur et je les remercie tous. C'est vrai qu'il y a un élan de solidarité énorme. Et bon, on a créé une cagnotte en ligne.
Sur Litchi.
Exactement. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire avec cet argent, si on pourra reconstruire une paillotte ou autre chose. Mais déjà, on voudrait au moins payer les fournisseurs qui nous avaient livré deux jours avant, quoi. Si on peut payer le maximum de personnes pour au moins sortir de là la tête haute, entre guillemets, quoi. J'ai un ami en particulier qui nous avait changé tout le système de réseau, caméra, alarme, etc. Et il m'a appelé le lendemain et il m'a dit écoute, la facture, la mienne, tu peux la jeter à la poubelle. Donc c'est magnifique. C'était une somme très importante et franchement, ça fait chaud au cœur. Faire quelque chose, c'est certain, parce que c'est notre tempérament, mon associé et moi, mais là, pour cette saison-là, ça va être très difficile.
Le lien vers la cagnotte en ligne est à trouver sur la page Instagram de l'Alboré.
RCFM, Maréladine.
Bilan très positif pour la délégation corse après escale à 7 avec des nouvelles pistes pour défendre le patrimoine maritime de l'île. On voit cela dans Maréladine ou avec Pierre-Jean Campoca, sous-directeur du patrimoine de la CDC. Il est au micro de Jérôme Souzine.
La Corse qui était invitée de Escala 7, cette rencontre, on va dire, méditerranéenne. Pierre-Jean Cambogas, bonjour.
Bonjour.
Il y avait évidemment ce côté festif, bien les musiciens, les chanteurs, la Vinta, Epo, qui ont mis une sacrée ambiance sur place. Il y avait les rencontres des pêcheurs et puis il y avait tout l'aspect rencontre ou faire découvrir la Corse et son patrimoine marin. Quel bilan vous tirez ?
C'était très positif. Pour nous, nous y sommes allés avec deux objectifs. Le premier, c'était de montrer le patrimoine maritime de la Corse, et puis le patrimoine immatériel avec les groupes, comme vous l'avez évoqué. Et puis le second objectif important pour nous, c'était de rencontrer, notamment à travers les Catalans qui étaient nos voisins, le village catalan, faire des rencontres avec des charpentiers de marine. Ils ont développé la fameuse voile latine catalane. Puis ça a été l'occasion, notamment sur ce sujet, de se mettre en relation avec l'UNESCO pour un programme qui va toucher toute la Méditerranée occidentale et ça nous permettra de participer à ce grand projet.
En quoi va consister ce grand projet UNESCO ?
C'est de s'engager sur un partenariat pour la restauration et la protection de voiles latines traditionnelles. En Corse, on a actuellement une embarcation protégée, c'est le Gotz ou la Sainte-Élisabeth de Carlivial qui est amarré dans le vieux port de Bastia. Pour nous, c'est de s'engager aussi. Dans le sud, on a plusieurs types de bateaux traditionnels, et notamment, j'évoquais les felouks, et c'est de permettre la restauration, on pense sérieusement à une inscription monument historique de ces unités.
Et merci beaucoup Pierre-Jean Campogras pour ce bilan et ses projections après cette belle rencontre Escale à 7. Bonne journée.
Merci, bonne journée à tous, au revoir.